Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit historique de la justice en France. En effet, ce n'est pas que l'actualité judiciaire ou législative soit en panne, mais en fait, la réforme des retraites prend toute la place et la Cour de cassation nous a gratifié de décisions purement techniques, sorte de cuisine moléculaire judiciaire qui n'est pas bien facile de vulgariser. Dès lors, nous allons faire un peu d'archéologie du droit afin de vous expliquer comment nous en sommes arrivés au système judiciaire que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vrai que je dois aussi faire du 1% culturel. Il faudra bien 2 ou 3 émissions pour cela. Pour commencer, nous sortirons rapidement du droit romain qui nous a quand même laissé des adages savoureux comme « suum quique tribuere » qui signifie « chacun selon son dû » ou « nemo ditur propriam turpitudinem allegans » qui signifie « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » qui sont encore utilisés, même si c'est de façon un peu précieuse, par nombre d'avocats dans leurs conclusions et plaidoiries actuelles. C'est quand même toujours mieux que « c'est celui qui dit qui est » ou « ok boomer » qui veulent dire à peu près la même chose, mais dont l'intérêt linguistique et juridique est quand même limité. Nous faisons rapidement un saut sur le droit wisigoth qui a irrigué la région puisque l'Occitanie était un royaume wisigoth et qui était étonnamment moderne puisque le code d'Alaric, rappelez-vous la montagne d'Alaric le long de l'autoroute en allant sur Carcassonne, prévoyait les dommages qu'il fallait verser quand on avait estourbi quelqu'un ou qu'on l'avait blessé. Et on devait payer selon un barème qui était payé en solidus. Le solidus, c'était la monnaie des Wisigoths. Donc, tu coupais la main de quelqu'un, tu devais payer 50 solidus à cette personne. Ou bien tu l'estourbissais, tu payais 300 solidus à sa veuve. Notre président Emmanuel Macron, qui ne jure que par les barèmes, est donc un digne successeur d'Alaric. Ce qui fait d'Alaric un droit très moderne ou d'Emmanuel, un président un peu archaïque, c'est selon. Nous voici arrivés au Moyen-Âge, avec un système judiciaire qui sera celui que connaîtra la France avec des petites évolutions du 8e siècle jusqu'à la Révolution où nous allons prendre notre système moderne. Nous en reparlerons plus tard. La justice est alors répartie en 2 grands systèmes, la justice seigneuriale, la plus basse, et la justice royale, la plus haute. Un peu comme on fait aujourd'hui dans les États fédéraux, par exemple comme l'Allemagne, entre la justice des Länder, les États, et la justice fédérale. La justice seigneuriale a une importance primordiale au sein du village. Il faut quand même savoir qu'il y avait pratiquement 20 000 cours de justice locales en France à cette époque. Elle arbitre d'une part les conflits entre paysans et d'autre part entre ceux-là et le seigneur. Dans ce dernier cas, elle n'est compétente qu'en matière de droits seigneuriaux, car pour toute autre cause, le seigneur doit se pourvoir devant une justice autre que la sienne, c'est-à-dire celle du seigneur voisin. À l'origine, le seigneur peut ainsi asseoir sa domination sur ses terres, mais cette possibilité n'a plus guère de réalité à partir du XVIe siècle, puisque le pouvoir royal va restreindre peu à peu les prérogatives seigneuriales. À la fin de l'Ancien Régime, donc à la veille de la Révolution française, la justice seigneuriale correspond plutôt à ce que l'on appellerait de nos jours une justice de proximité, c'est-à-dire l'ancien tribunal d'instance, mais elle n'a plus alors d'importance réelle que pour des affaires mineures. En dépit d'une légende noire persistante, les justices seigneuriales au XVIIIe et XIXe siècle rendent des services indiscutables dans les campagnes car elles sont rapides, accessibles aux justiciables, peu coûteuses et équitables selon l'opinion de la plupart des spécialistes modernes qui se sont penchés sur leurs archives. Jusqu'au XVIe siècle, la cour seigneuriale est présidée par le seigneur ou l'un de ses représentants, prévôt, bailli, sénéchal ou simple juge. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit la légende de Saint-Louis sous son chêne. Quand Saint-Louis juge sous son chêne, il ne juge plus comme un roi, mais comme n'importe quel seigneur sur ses propres terres. Le seigneur ne juge plus personnellement depuis le XVIe siècle, et c'est tant mieux parce qu'il est un peu juge et parti quand il était concerné par un litige avec un paysan. Il est alors tenu de nommer un juge possédant des compétences juridiques reconnues, tant qu'à faire, c'est-à-dire titulaire d'un diplôme d'une faculté de droit, comme celle de Montpellier par exemple, et être pourvu de gages suffisants et avoir été agréé par la juridiction royale dont il dépend. Et la Révolution française de 1789 donc, va supprimer ces justices et leur substitue les justices de paix par une loi des 16 et 24 août 1790 qui vont fonctionner dans chaque chef-lieu de canton jusqu'en 1958, par exemple à Gignac, par exemple à Clermont-l'Hérault, par exemple à Lodève, il y avait un juge de paix. Il y a 3 degrés de justice seigneuriale, la justice haute ou la haute justice. Le seigneur, ou plus exactement le juge seigneurial, peut juger toutes les affaires et prononcer toutes les peines, dont la peine capitale, d'où le nom de jus gladi, c'est-à-dire le droit de l'épée. Mais attention, si le juge seigneurial avait prononcé la peine capitale, celle-ci ne pouvait être exécutée qu'après confirmation par des juges royaux et il y avait un appel obligatoire qui était porté devant les parlements. C'est-à-dire que quand on voit le seigneur pendre un braconnier comme ça dans les films, en réalité, ce n'était pas vrai. Il était obligé d'attendre que la justice royale ait validé la peine de mort que sa justice à lui avait infligée. La haute justice jouit de la plénitude de juridiction au civil comme au pénal. Et le seigneur disposant de la haute justice possède tout l'arsenal répressif au nom fleuri. Alors il avait une prison, il avait le carcan, vous savez, là où on met la tête et les bras et on vous trimballe dans la ville avec ça autour du cou. Le pilori, où vous êtes exposé aux vues des gens. Et autre fourche patibulaire, alors les fourches patibulaires, en fait, c'était un gibet qui était monté sur deux piliers et une planche centrale et on accrochait les cordes et on laissait les pendus suspendus pendant des jours et des jours à la merci des corbeaux, c'était pour édifier le bon peuple. Et c'était le cas à Gignac, qui a encore la trace de deux palais de justice et d'une prison. Il y avait une viguerie à Gignac, c'est-à-dire l'endroit où l'on pouvait même jusqu'à condamner à mort quelqu'un. Alors je ne sais pas s'il y a eu à Gignac des condamnations, je l'ignore. Et il y avait le tribunal dans la Grand Rue, qui sera celui du juge de paix après la Révolution. Vous avez ensuite la justice moyenne ou moyenne justice. Le seigneur peut juger les rixes, les injures, les vols. Les délits ne peuvent être punis de mort en moyenne justice. Pratiquement, la moyenne justice joue un rôle important au civil, notamment en matière de succession et de protection juridique des intérêts des mineurs. Apposition de scellé, inventaire des biens, nomination de tuteur lorsque le mineur est orphelin, par exemple. Et enfin, la justice basse ou la basse justice. Le seigneur peut juger les affaires relatives aux droits dus au seigneur. Par exemple, le cens, c'est-à-dire les impôts, très important. La rente, c'est-à-dire le paiement pour l'utilisation des biens communs à l'époque dans les villages. Le four banal, ce qu'on appelait le four banal, qui était le four commun où on pouvait faire cuire son pain à soi. Le moulin pour pouvoir moudre sa farine, etc. Il y avait également les exhibitions de contrats et héritages. C'était quand on les ouvrait, quand on ouvrait le testament. Il s'occupe aussi des délits et amendes de faible valeur, les dégâts sur les bêtes, les injures, toutes les amendes qui est inférieure à 7 sols et 6 deniers, c'est-à-dire environ aujourd'hui quelque chose comme 30 euros. Il doit posséder des sergents, c'est-à-dire une police municipale, et une prison afin d'y enfermer tout délinquant avant de le mener au haut justicier, c'est-à-dire le seigneur le plus capé, celui qui possède la haute justice sur le territoire, vous savez, celui qui peut le cas échéant condamner à mort. Si la seigneurie est assez grande pour qu'il y ait des vavasseurs, alors c'est quoi un vavasseur ? Un vavasseur, c'est quelqu'un qui en fait est un sous-vassal. C'est le seigneur en dessous du seigneur qui est lui-même en dessous du seigneur. C'est vraiment le tout petit seigneur. Et il y a encore beaucoup de gens qui s'appellent aujourd'hui le vavasseur dans leur nom de famille. Ce qui fait d'eux les descendants sans doute de ces petits seigneurs ruraux. Les affaires de moyenne et basse justice sont donc jugées par les soins de ces vavasseurs. Bon, cela fait déjà beaucoup à digérer et je vous parlerai de la justice royale la prochaine fois. Voilà, vous savez tout, je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pays Héros et RPHU dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Epaillé, avocat. Écoutez les deuxième et quatrième mardis du mois à 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.